Amen. Béni soit Dieu. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs, et je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte, la bonne parole de notre Dieu, dans le livre de Néhémie, où nous lirons au chapitre 2 ce que Néhémie donne comme témoignage de sa propre bouche. Néhémie chapitre 2, verset 9. « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Néhémie, vous savez, c'est un homme de réveil. Dans le livre du prophète Ézéchiel, nous lisons au chapitre 22 la chose suivante. C'est Dieu qui dit ça. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Du temps d'Ézéchiel, il n'en a point trouvé. Mais Dieu merci, du temps de Néhémie, il s'en est trouvé un. Pour le plus grand profit, pour la plus grande bénédiction, pour le plus grand salut du peuple. Et combien ceci nous parle de l'importance d'un homme de réveil, hélas, de sa rareté trop souvent, et de l'efficacité aussi d'un homme de réveil par la puissance de Dieu, et de l'excellence du modèle, de l'exemple qu'il y a dans un homme de réveil semblable à Néhémie. Et cet exemple, il est pleinement valable pour nous, parce que c'est certainement quelque chose dont nous avons le plus grand et le plus urgent besoin dans le cadre même de notre assemblée. Et c'est pour ça qu'il est bon que nous puissions nous attacher avec la plus grande attention à Néhémie et méditer sur ses caractères en tant qu'homme de réveil. Nous pourrons relever les chapitres suivants dans notre méditation, dans notre étude sur le livre de Néhémie, que nous ne conclurons pas aujourd'hui, mais que nous voulons commencer. Et nous pourrons voir plusieurs choses. Déjà, la première chose qui est frappante, c'est qu'il s'agit d'un homme qui a un véritable esprit de prière. Nous pourrons voir en quoi cela consiste. Et puis, le deuxième point que nous verrons, Dieu voulant, c'est un homme qui cherche la cause des choses et qui la trouve. Un homme aussi qui sait discerner l'ennemi, qui sait discerner l'adversaire, parce que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, voilà, et qui sait lui répondre de la bonne façon. Et puis aussi un homme qui a des engagements successifs et qui peut ainsi engager les autres avec autorité. Un homme également qui a une grande considération pour ceux qui bâtissent, ce sera notre cinquième point, Dieu voulant, et un homme aussi qui agit avec résolution et rapidité pour aller jusqu'au bout de l'entreprise qui lui a été confiée. Enfin, un homme qui lutte contre les tendances au laisser-aller qui viennent si naturellement au cœur de l'homme. Et voilà, donc ça c'est notre plan global. Et nous en arrivons maintenant à notre premier grand chapitre, un homme qui a un véritable esprit de prière. Vous savez, il existe différentes formes de prière. Donc, en fait, il est question 12 fois de la prière dans le livre de Néhémie, et on peut répartir cela en 5 catégories différentes. Déjà, la première, c'est la prière qui est accompagnée de jeûne. Voyons cela dans le chapitre 1, du verset 4 au verset 11, lorsqu'il voit la situation désastreuse dans laquelle se trouvait Jérusalem en son temps, la ville détruite, la muraille détruite par le feu. Il va adresser à Dieu une prière avec larmes et supplications, une prière intense pour qu'il intervienne et pour qu'il agisse. Et vous pouvez remarquer, lorsque vous lisez le texte, qu'il n'y a sur le coup ni voix ni signe d'attention de la part de Dieu. Et on pourrait se poser la question humainement, est-ce qu'une telle sorte de prière est véritablement efficace, puisqu'on n'y voit pas de conséquences directes. Vous savez, c'est un chrétien, un jour, il a eu un songe. Un songe, ce n'est pas un rêve, c'est différent. Un rêve, c'est quelque chose qu'on fait comme ça, de manière absolument incontrôlée et incontrôlable. Mais un songe, c'est Dieu qui nous parle. Dieu qui nous parle dans notre sommeil. Et donc ce songe était le suivant. Dans ce songe, il y avait 4 chrétiens qui étaient agenouillés et qui priaient. Et pendant qu'ils priaient, le Seigneur lui-même est venu pour répondre aux besoins de chacun d'eux. Il s'est arrêté près du premier, il a posé sa main sur lui et ce divin contact lui a apporté le réconfort et la force. Ensuite, il s'est approché du second, il ne l'a pas touché, mais il lui a dit simplement une parole, et le son de sa voix et cette parole donc a apporté le calme et la guérison. Il est arrivé près du troisième, et il ne l'a pas touché, il ne lui a rien dit, mais son regard, si plein de profonde compassion, a réchauffé le cœur du chrétien et l'a rempli de joie. Et continuant à avancer, le Seigneur est passé près du quatrième sans le toucher, ni lui parler, ni même le regarder. Et le chrétien, dans son songe, savait que ce dernier était en train de passer par une dure épreuve, qu'il était fatigué, chargé, et il s'est mis à crier, « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu passes près de lui sans même lui jeter un regard ?» Alors le Seigneur s'est tourné vers lui et lui a expliqué, « Celui-ci n'a pas besoin d'une vision, ni d'une manifestation spéciale de ma part, il peut aller de l'avant par la foi. » Il peut aller de l'avant par la foi. Voilà. Hein. Et c'est ce que nous voyons chez Néhémie, qui va de l'avant par la foi. Et allant de l'avant par la foi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va faire un travail. Dieu va disposer favorablement le cœur du roi. Dieu va donner une occasion à Néhémie d'exposer son problème au roi, alors que le roi est dans cette bonne disposition. Dieu va permettre que tout l'ensemble, la suite des circonstances, se déroule favorablement. Dieu va permettre que ses efforts soient couronnés de succès, et nous discernons ainsi, plus tardivement peut-être, mais nous discernons cependant quand même bien, l'épreuve d'une telle puissance de la prière et d'une telle efficacité. Amen. Et puis maintenant nous avançons, nous avons un deuxième aspect, une deuxième sorte de prière, qu'on pourrait appeler la prière éclair, qu'on trouve dans deux circonstances extrêmement différentes et je dirais presque opposées. Déjà la première, c'est dans le chapitre 2 au verset 4. « Le roi me dit, que demandes-tu ? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, etc. » Voilà. Donc, ça c'est la première occasion. Première occasion, le temps d'entendre une question qui lui est posée par le roi et d'y répondre. Vous savez, il ne pouvait pas faire attendre le roi longtemps, ce n'était pas possible. Donc ça veut dire qu'entre la question posée et la réponse qu'il a donnée, il a eu le temps de faire monter une prière vers Dieu, et Dieu, évidemment, Dieu, dans le même clin d'œil, cette réponse est descendue, je dirais, foudroyante d'efficacité, de puissance et de douceur en même temps. Le roi est convaincu et il ne reviendra pas sur la chose. Donc ça, c'est une situation. Et puis ensuite, l'autre, non, c'est tout différent. C'est au chapitre 6, au verset 9. Et là, on voit que Néhémie est entouré d'ennemis. Chapitre 6, au verset 9, nous lisons, « Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Je me rendis chez Shemaïja, etc. Voilà. Donc, une courte prière encore, mais cette fois-ci, il est entouré de traîtres, de menteurs, de trompeurs, de gens qui tentent des pièges, des choses trappes. Qui sont malhonnêtes, qui sont vicieux, et il est là, il lutte, il résiste, et il défend l'œuvre qui lui a été confiée, la cause de Dieu, mais au milieu de tous ses efforts pour parer les coups, en quelque sorte, et pour manier l'épée de l'esprit, il n'oublie pas de crier à celui qui demeure la seule vraie source de délivrance et de salut. Hein, donc voilà. Et combien aussi nous avons besoin d'apprendre et de mettre en œuvre cette manière de faire, nous qui nous laissons si facilement submerger par les occupations, les travaux, les soucis, les angoisses, les difficultés. Et pourtant, c'est là qu'est la délivrance. Et c'est là qu'en même temps aussi le véritable esprit de réveil. Dans l'homme de Dieu du XVIIe siècle, qui nous a transmis en ce qui concerne la prière, la relation avec Dieu, les conseils suivants qui sont toujours d'actualité, que je vous lis. Dites simplement à Dieu tout ce que vous avez sur le cœur, comme si vous aviez besoin de tout dire à votre meilleur ami, vos souffrances autant que vos plaisirs. Dévoilez-lui vos peines afin qu'il puisse vous réconforter et vos désirs les plus secrets afin qu'il puisse les purifier. Parlez-lui de toutes les choses que vous détestez afin qu'il vous aide à les affronter. Et de toutes les tentations qui vous assaillent, afin qu'il vous en protège. Montrez-lui les blessures qui rongent votre âme, afin qu'il les guérisse. Ne lui cachez pas votre indifférence à faire le bien, ni votre penchant à faire le mal. Avouez-lui votre manque de stabilité et de persévérance, Dites-lui combien l'amour-propre vous empêche de vous intéresser aux autres et vous rend injuste à leur égard. À quel point la vanité vous interdit toute sincérité et comment l'orgueil vous aveugle aux besoins des autres autant qu'aux vôtres. Si vous lui dévoilez ainsi toutes vos faiblesses, vos peines et vos besoins les plus intimes, vous ne serez jamais à court de prière. Jamais votre source de conversation avec lui ne tarira. Les gens qui n'ont aucun secret les uns envers les autres ne sont jamais à court de sujets de conversation. Ils ne pèsent pas la portée de leurs paroles, car ils n'ont rien à cacher. Ils ne réfléchissent même pas à ce qu'ils doivent dire, car de l'abondance de leur cœur parle leur bouche. Ils disent simplement ce qu'ils pensent, sans s'attarder à de vaines considérations. Quand ils présentent leurs requêtes, ils le font dans la foi, certains d'être entendus. Heureux sont ceux qui communiquent ainsi avec Dieu, de manière aussi simple et directe, dans la totale liberté de sa présence. Amen. Vous voyez, ce qu'on peut retenir, c'est la notion de simplicité, la notion de communication, hein, il n'y a pas besoin de langue de bois, il n'y a pas besoin de grandes fioritures, là, de paroles, de phrases grandiloquentes, mais simplement, nous pouvons parler à notre meilleur ami. C'est ça le genre de relation que Dieu désire avoir avec nous. Béni soit son nom. Amen. Et puis nous avançons, nous voyons maintenant une troisième sorte de prière qui va peut-être nous paraître surprenante au premier abord, mais c'est la prière qui lutte contre l'ennemi. Et là, je lis quatre passages, chapitre 4, verset 4 déjà. « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Dans le chapitre 5, au verset 13 maintenant, « Et je secouai mon manteau en disant, « Que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. » Toute l'assemblée dit « Amen ». Et puis nous avançons au chapitre 6 et au verset 14. « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambalat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Enfin, au chapitre 13 et au verset 29, dans le dernier chapitre du livre, souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Alors, on pourrait dire, à la lecture de ces prières, qu'il s'agit à la limite de prières de malédiction. Hein, donc, on pourrait se demander si l'homme de Dieu ne va pas trop loin, s'il ne se laisse pas emporter par l'ardeur du combat, s'il n'a pas un esprit un petit peu trop échauffé, hein, donc, mais non, pas du tout. Il s'agit de la prière d'un homme, des prières d'un homme de réveil, un homme qui a des convictions, un homme qui lutte pour une cause, un homme qui sait qu'il existe de réels adversaires, et un homme qui sait combien ses ennemis sont redoutables, un homme qui sait qu'il ne faut pas avoir de faiblesse, ne pas avoir de faiblesse à leur égard. Hein, donc, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Et nous aussi, nous ne devons pas sous-estimer l'adversaire. Hein, c'est un pêcheur qui disait, quand je vais à la pêche, j'apporte avec moi bien des appâts différents. Mais chaque poisson se fait toujours prendre par le même appât. Chaque poisson a son faible pour l'un ou pour l'autre. Et quand je sais ce qui l'attire, je sais aussi comment le prendre. Parfois, le poisson arrive à se dégager de l'hameçon en se déchirant la peau et va se cacher pour panser ses blessures, mais les cicatrices seront toujours là dans sa chair. De même, parfois, vous parvenez à vous libérer de l'emprise de Satan, mais non sans souffrance, et les cicatrices peuvent être là aussi pour tout le reste de votre existence, parce que Satan est très intelligent, vous savez. Il adapte ses tentations à notre faiblesse. Satan ne peut pas pénétrer dans nos pensées, hein. Réalité, il n'est pas comme Dieu, hein, donc, mais il peut deviner quand même, en analysant nos comportements passés, quelles tentations ont raison de nous. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas attiré par l'argent, mais un soupçon d'orgueil dort peut-être au fond de votre cœur. Ou peut-être que vous détestez toute forme d'alcool, mais vous n'aimez rien autant que de bavarder à tort à travers les uns sur les autres. Hein. Attention aussi à ce qu'on dit à haute voix. Il est à notre écoute et si nous dévoilons nos craintes et nos attirances, il sautera sur l'occasion et il adaptera son attaque en conséquence. Hein, donc ça aussi, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire preuve d'orgueil. Hein. Si on affirme, par exemple, il y a un domaine dans ma vie qui est insensible aux attaques de Satan, c'est bien celui-là, je ne commettrai pas d'adultère parce que j'aime beaucoup trop ma femme. Eh bien, soyez sûr que le diable va vous attaquer précisément dans ce domaine-là. La technique favorite de Satan, c'est d'embellir le péché. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, il est marqué que Ève vit que l'arbre était bon et elle prit de son fruit. Elle a vu que l'arbre était bon. Eh oui, il a vu cette apparence. Et en faisant tomber Ève, Satan visait bien sûr aussi Adam, il visait aussi les enfants, qu'elle est à voir de cela. Satan est vaincu lorsqu'on accepte son aide au cœur de la tentation. Parce que heureusement, si on continue avec ce qui s'est passé pour Ève, malgré sa chute, il est dit dans Genèse 4, verset 25, que Dieu lui a procuré un autre fils qui a été Seth, qui a été le père d'Enoch, et il est marqué que c'est alors qu'on commença à invoquer le nom du Seigneur. C'est là qu'on a commencé à demander le secours de Dieu dans la tentation, et c'est là aussi que par sa puissance, on a été soutenu et secouru et libéré. Amen. Amen. Donc nous voyons cela aussi. Donc un homme, voilà, qui ne va pas se laisser prendre par les apparences doucereuses et qui ne va pas baisser sa garde, un homme qui sait ce que c'est que le combat spirituel et qui va le mener de toute sa force. Et vous remarquez qu'il ne prie pas contre n'importe qui, hein, mais uniquement contre les adversaires qui sont résolus et conscients du mal qu'ils font. Hein, donc voilà, donc, par exemple, dans le premier texte, chapitre 4, verset 4, ceux qui veulent maintenir le peuple de Dieu en dépendance, en captivité, et qui font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher l'œuvre de Dieu de se faire, la construction de la muraille de s'opérer. Chapitre 5, verset 13, le combat qu'il a, c'est contre ceux qui veulent convoiter, qui veulent posséder, au point d'être des empêchements pour ceux qui veulent travailler pour le Seigneur. Chapitre 6, verset 14, c'est contre ceux qui veulent effrayer et décourager ceux qui servent de Dieu, les arrêter par toutes sortes de tromperies, de mauvais moyens. Chapitre 13, verset 29, est-il question de ceux qui souillent le ministère, l'alliance faite par les membres du peuple de Dieu, en y mêlant quoi ? L'erreur, les compromissions, la recherche de la facilité et le mauvais exemple contagieux. Voilà, donc je survole ces choses simplement. Pourquoi ? Eh bien pour que, en premier évidemment, nous puissions discerner ces tendances dans notre propre cœur, et que nous puissions lutter contre elle avec la dernière énergie, et que nous puissions aussi lutter contre ces choses quand elles se présentent dans le peuple de Dieu ou qu'elles le menacent. C'est dans la prière, dans le combat spirituel, que nous pouvons le faire. Amen. Et puis après, vous avez ensuite une quatrième sorte de prière qu'on voit. Là aussi, quatre passages. La prière de demande de bénédiction pour lui-même. Là, on va lire donc aussi le chapitre 5, au verset 19, oui, chapitre 5, verset 19, déjà, pour commencer. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Et maintenant, dans le chapitre 13, par trois fois, retrouvons une prière un petit peu du même genre. Déjà au verset 14, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et les choses qui doivent être observées. » Et encore au verset 22, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. » Et enfin, le tout dernier verset du livre de Néhémie, « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, verset 31 encore. » Et là encore, un lecteur superficiel de ces prières tirées de leur contexte pourrait être surpris, pourrait être choqué et pourrait se dire « voilà un homme qui est bien sûr de lui, voilà un homme qui paraît orgueilleux, un homme qui met beaucoup en avant ce qu'il a fait, un homme qui a l'air de s'appuyer beaucoup plus sur ses mérites que sur la grâce de Dieu, ne serait-ce pas là un propre juste ?» Voilà. Mais une étude plus approfondie du livre de Néhémie nous amènera à une opinion exactement contraire, parce que Voici un homme, déjà, qui est équilibré à un point rare, et il le fallait d'ailleurs, pour se tirer des situations et des tensions compliquées dans lesquelles il s'est trouvé. Voilà un homme qui compte sur la grâce de Dieu. La façon dont il le supplie le montre assez bien. Donc la façon dont il s'humilie, c'est beaucoup dans le chapitre 1er et surtout dans tout le chapitre 9, c'en est une évidence claire. En même temps, c'est un homme qui est extrêmement conscient de ses limites. Lorsqu'on essaye de l'inciter à entrer dans le temple pour soi-disant se protéger, eh bien, il va dire « Mais quel homme suis-je pour pouvoir entrer dans le temple de l'Éternel ? Je ne suis pas un lévite, je n'ai pas le droit d'entrer. » Non, non, il est très conscient de ses limites. Mais aussi, il sait la valeur et l'importance de ce qu'il fait. Il sait la place stratégique qu'il occupe sur l'échiquier de l'œuvre de Dieu dans la situation du moment. Et c'est pour ça qu'il dit « Un homme tel que moi prendre la fuite ?» Non, pas question. Et il est prêt donc à jeter sa couronne aux pieds du Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, il faut qu'il l'ait cette couronne. Avant ça, il faut qu'il puisse l'avoir, il faut qu'il s'en soit emparé. Et puisqu'il y a des promesses de Dieu à ce sujet, le voilà qui crie à Dieu. Le voilà, et le fait de crier au Seigneur de cette manière, le fait de s'emparer ainsi des promesses de Dieu, le fait d'accomplir l'œuvre de Dieu avec le secours du Seigneur, le fait d'être un instrument utile, le fait d'être ouvrier avec Dieu, le fait de lutter, de persévérer avec succès, tout cela lui fait se saisir avec force et assurance de ces bénédictions que Dieu promet. Et ainsi voyons-nous qu'un homme de cet homme de prière, un homme de prière va lutter avec assurance pour que Dieu visite et bénisse ses efforts. Et ça va être pour lui, quelque part, une motivation, une impulsion puissante pour continuer et grandir dans cette voie, et cela jusqu'au terme de cette lutte et de cette victoire qui doit véritablement être complète. Amen. Enfin, une cinquième chose qu'on peut voir concernant un autre aspect de sa prière, c'est qu'il prie avec ses frères. On le voit très clairement au chapitre 4, verset 9, avec ses frères de lutte. Néhémie n'oublie pas la prière en commun. Pour lui, elle est de la plus haute importance. Et quand l'ennemi vient, c'est vrai, lorsqu'il arrive, alors tout le monde a tendance à s'agiter, à s'affoler. Et on veut passer beaucoup de temps à se retrancher, à pratiquer le maniement d'armes, prendre toutes sortes de précautions pour se dépenser, pour s'affairer. Alors, il ne s'agit pas de négliger les précautions, mais il faut mettre les choses à leur place. Encore et toujours, il faut mettre les choses à leur place. On prie d'abord le Seigneur. On le prie ensemble, on le prie comme notre Dieu, comme il est marqué là. Et ensuite, et en même temps, on établit une garde, et une garde jour et nuit. Et je crois qu'il faut toujours que nous soyons conscients de cette prière ensemble. Ça doit être et demeurer une priorité. C'est quelque chose d'important, de précieux, la force, la bénédiction d'une réunion de prière. On le voit. C'est vrai que nos efforts ne vont pas s'arrêter là. Mais malgré tout, combien il est écrit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Prenez garde, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Vous savez, malgré les nombreuses promesses de l'Écriture sainte à ce sujet, nous avons toujours du mal à saisir l'importance des réunions de prière aux yeux de Dieu et pour les croyants fidèles. C'était aussi l'avis et le souci de Charles Haddon Spurgeon, parmi beaucoup d'autres hommes de Dieu. Et c'est pour ça qu'entre autres, il a écrit un livre en anglais qui a pour titre « Only a prayer meeting ». Donc, ça veut dire en français « seulement une réunion de prière » ou « juste une réunion de prière ». Ça laisse déjà comprendre dans le titre l'importance plus grande que la réunion de prière devrait avoir pour beaucoup de chrétiens. Et une autre fois, notre occasion, arrivant à l'avance au culte un dimanche matin, il a vu devant la porte un groupe de visiteurs de passage. Et après les avoir salués, il leur a proposé de les guider dans la visite du tabernacle métropolitain. Ce tabernacle métropolitain, c'est cet imposant bâtiment d'église qui avait été construit spécialement pour accueillir les 6000 personnes qui venaient tous les dimanches écouter Spurgeon, écouter sa prédication. Alors il leur a dit, venez et commençons par admirer le système de chauffage de l'église. Alors les visiteurs étaient intrigués, parce que se demandant ce que le chauffage pouvait avoir de si original et de si important aux yeux de leur guide. Et ils l'ont suivi au sous-sol de la salle de culte. Et là, il y avait une porte, il a ouvert cette porte, et il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient réunies là en prière. Et il a dit, il a chuchoté, « Mesdames et messieurs, voilà le système de chauffage de l'Église. C'est grâce à ces bien-aimés qui luttent spirituellement avant chaque culte que la bonne chaleur du Saint-Esprit peut être expérimentée par les participants au service qui va se tenir bientôt juste au-dessus. » Voilà. Hein, donc, et c'est une leçon que nous devons toujours apprendre, que nous avons aussi dû apprendre, je m'en souviens, réapprendre, spécialement dans les missions d'été sous chapiteau, qui était un lieu de combat spirituel, hein, bien réel, parce que c'était quand même par ce moyen-là que beaucoup de nos églises ont été ouvertes et ont été renforcées, spécialement lorsqu'elles étaient encore jeunes, encore petites. Et nous avions établi une bonne habitude, là, une bonne habitude, dans le déroulement du programme jour d'année de la mission, c'était ce moment de prière, d'une demi-heure environ, avant la réunion d'évangélisation du soir, qui devait se dérouler à 20h. Alors, il fallait un peu s'organiser, il fallait se discipliner entre le repas du soir à 18h, la vaisselle à faire, les derniers préparatifs et rangements, parce qu'il y avait le camion de mission, le matériel était dedans. Et donc, la dite réunion de prière qui était censée finir 15 minutes avant la réunion d'évangélisation du soir à 20h. Et à l'occasion dont je vous parle, nous étions à Dole, dans le Jura. Nous avions monté le chapiteau sous de grands arbres, bord du Doubs, au pied des remparts. Et comme il avait fait chaud la journée, et qu'il fallait encore ranger le matériel dans le camion de mission, et il y avait dans l'équipe, voilà, depuis le début de la semaine, une tendance générale avec la chaleur, etc., à vouloir se détendre. Alors le moment de prière était devenu plus en plus court. Il rétrécissait comme une peau de chagrin, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a disparu. Victime donc de la négligence, de l'insouciance, je pense. Et au jour dont je vous parle, il faisait beau. Hein. Il faisait beau, la vaisselle n'était pas finie, les uns les autres se reposaient ou le vaquaient à diverses bricoles, lorsque d'un seul coup, vers 19h30, il y a eu un coup de vent soudain violent, un seul, mais qui a déchiré la toile du chapiteau, qui a tordu l'armature, pas de blessés, Dieu merci, mais la mission était finie. Hein. La mission était finie parce que les dégâts étaient trop importants et ça a été une bonne leçon. En tout cas pour moi, ça a été une bonne parce que, et je reste persuadé que si nous avions été en prière sous le chapiteau à ce moment-là, eh bien nous aurions été gardés parce qu'une mission, comme je vous dis, c'est un vrai combat spirituel et ça doit toujours être considéré comme ça. Et ceci est confirmé, en tout cas, ceci a été confirmé pour moi par l'expérience inverse. Quelques années plus tard, encore dans une mission d'été sous chapiteau, mais à Saint-Dizier, devant l'hypermarché Cora. Et ce soir-là, le temps était à l'orage. Il y avait des bourrasques de vent, il y avait des nuages bas. Mais nous avions la réunion à tenir et il y a un certain nombre de frères et sœurs qui étaient présents pour le moment de prière préparatoire qui se tenait déjà donc sous le chapiteau. Et c'est là que la tempête est arrivée. Donc, il n'existait pas encore d'avertissement météo comme on peut en avoir aujourd'hui. Et puis ça s'est mis en route avec une force considérable. Et je me souviens, les jeunes qui ont participé au camp de jeunes qu'on faisait à Vertuel, vous voyez un petit peu le chapiteau peut-être, hein, je parle là. Donc c'était ce genre, on avait deux chapiteaux comme ça qui tournaient tout l'été en mission. Et on avait un chapiteau de ce genre, là vous avez sur le devant l'armature, la toiture qui est comme ça, puis vous avez une barre de maintien sur le devant. Et donc, à 5 ou 6 frères de poids, moi je suis quand même d'un certain poids, et puis à quelques autres, on s'est accroché à la barre. On était accroché à la barre et on tenait, et le vent secouait la chose, il arrivait de face, il secouait la chose avec fureur plusieurs fois. On a senti que ça décollait, que ça commençait à décoller. Hein, donc, mais voilà, donc pendant qu'on priait, eh bien tout le monde, pendant qu'on était là, tout le monde priait avec ardeur. Et je peux vous dire, j'ai entendu prier des gens que j'avais jamais entendu prier avant au culte ou à une réunion de prière, qui priaient avec force. « Seigneur, secours-nous ! Seigneur, alléluia !» Voilà, c'est vrai, j'avais entendu crier comme ça, de cette façon-là. Et à un moment, il y a même eu un clochard qui avait des cheveux noirs, une barbe noire, qui était vêtu de sombre, et un chien noir qui le suivait, et puis qui s'est écrié, a traversé la tente en disant « Je suis le diable, je suis le diable !» Alors, c'était vraiment, voilà. Et alors, les sœurs ont encore crié plus fort. Voilà. Et finalement, la tempête s'est calmée. Et notre chapiteau était sauf. Il n'y avait aucun dégât. Et quand nous sommes sortis pour voir un peu dans les environs, juste derrière, il y avait un gros arbre, hein, donc à l'entrée du parking du Cora. Il y avait un gros arbre. Et la branche maîtresse, c'est une grosse branche, hein, c'était à peu près une branche de cette taille-là, à la base, la branche était arrachée. Donc, elle avait été arrachée par le vent, elle était tombée toute sa longueur. Heureusement, pas de notre côté, mais de l'autre côté. Donc, déjà. Et un peu plus loin, écrasé contre un bâtiment, il y avait un grand réservoir d'eau métallique, vous savez, qui était sur des pilotis comme ça. Je pense qu'il était vide. En tout cas, il a offert prise au vent. Le vent l'a arraché de son support. Il allait s'écraser contre le bâtiment. Et un peu plus loin encore, il y avait une plantation de peupliers. Donc, et puis là, au milieu, ben, il y avait un couloir d'arbres qui avait été arraché, c'est-à-dire, en fait, ils avaient été coupés, tous à la même hauteur, et tous tordus dans le même sens. Donc, vous aviez un couloir, comme ça, très net. C'est simplement pour nous faire réaliser comment le Seigneur nous avait gardés. Comment le Seigneur nous avait gardés. La réunion de prière, la lutte dans la prière, ont permis que la tempête soit surmontée et que la mission puisse se poursuivre et s'achever dans de bonnes conditions. Vous savez, frères et sœurs, Seigneur Jésus dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Hein. Et ainsi, nous voyons quelques-uns des aspects de cette vie de prière qui était celle de Néhémie et qui se recommande à nous comme un modèle et comme un homme de réveil. Amen. Alors j'avance un peu et puis je passe à mon deuxième point. Vous comprenez pourquoi on ne pourra pas faire tous les points aujourd'hui. Donc, un homme qui cherche la cause des choses et qui la trouve et qui en tire immédiatement les conclusions, et on voit ça dès le début du livre et ensuite tout au long. Et ça aussi, c'est quelque chose de primordial pour être un homme, une femme de réveil véritable. Déjà, il trouve en premier les causes de la ruine de Jérusalem. Donc, nous l'avons vu, il s'est mis devant Dieu, il a demandé pourquoi c'était comme ça. Et puis, il se met à prier, à jeûner, cherche la cause de ses malheurs, c'est très clair, s'humilie devant Dieu, et Dieu lui montre la cause. La cause, ce sont les péchés des générations passées. La cause, c'est le péché des générations antérieures. Et c'est là qu'on discerne l'homme de réveil. C'est là qu'on voit l'homme de réveil, car que va-t-il faire ? À ce stade-là, il a le choix. Hein ? Alors, soit il peut dire, mais moi, j'y suis pour rien, je suis parti de la nouvelle génération, alors voilà, sans laver les mains en quelque sorte. Bon, il peut prier peut-être un petit peu par acquis de conscience. Et je dirais que, dans ce qu'il dit qu'il n'y peut rien, humainement, personne ne pourrait lui reprocher quoi que ce soit. Parce que c'est vrai. Hein. Mais à ce moment-là, vous n'auriez pas le livre de Néhémie dans la Bible. Hein. À ce moment-là, eh bien, on n'aurait pas cet homme de réveil dont nous pouvons parler avec tant d'instruction et d'encouragement. Mais Néhémie, lui, va faire l'autre choix. L'autre choix, c'est quoi ? C'est qu'il va s'humilier pour ses ancêtres. Il va se charger de leurs fautes. Il va se revêtir de leur culpabilité. Il va se rendre responsable. Hein ? On voit ça très clairement dans le chapitre 1, versets 6 et 7. Je vous lis quand même, je pourrais vous lire aussi tout le chapitre 9, où il développe la chose encore avec beaucoup plus d'étendue. Mais je lis simplement. Que ton oreille, il prie donc, soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de nos pères, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons pas observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur, etc. Voilà, et il continue. Voilà, c'est vrai. Néhémie va faire ce choix-là. Il va s'humilier, effectivement, pour ses entraînements. Il va se rendre responsable. Est-ce qu'on peut comprendre ça ? se rendre responsable pour des choses qu'on n'a pas directement faites, hein, emporter la culpabilité sur soi, s'en repentir, s'en humilier devant Dieu, en accepter les conséquences avec soumission. C'est cet esprit de réveil-là qui est contraire, tout à fait contraire à la nature humaine. Parce que la nature humaine, bien, c'est plutôt, je dirais, la tendance à nous décharger de nos responsabilités, de nos culpabilités. Hein, voilà, en le faisant facilement sur d'autres, on se trouve de bonnes raisons pour s'excuser de nos manques, de nos infidélités. On va accuser la dureté du monde, la difficulté de nos circonstances, qui sont bien sûr toujours particulières. Les autres ne peuvent pas nous comprendre. On va trouver des faiblesses, des manquements chez d'autres, etc. Voilà. Mais tant que nous serons comme ça, tant que nous serons dans cette attitude-là, c'est vrai que ça va être extrêmement compliqué pour que Dieu puisse faire son œuvre. Et puis, on n'aura en tout cas pas cet esprit de réveil. Parce que le réveil consiste à se remettre en question soi-même et à se charger de toutes les responsabilités qui sont à notre portée. Et ça, c'est certainement, oui, c'est vrai, c'est humiliant. Certainement, c'est quelque chose qui nous brise, mais c'est ce qui est nécessaire aussi pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire. Ça, c'est quelque chose de très important. Et vous pouvez remarquer ensuite que pour tous les problèmes qui vont se présenter dans cette œuvre de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans problème. Hein. Donc, il cherche et il trouve la cause. Il va chercher, il va trouver la cause. Quand il s'agit d'attaques qui proviennent de l'extérieur du peuple de Dieu, quelque part, le problème est beaucoup moins compliqué, parce que les réactions sont assez faciles à faire, les prises de position sont simples à prendre, et on peut se mettre assez facilement d'accord pour une réaction commune. Voilà. Mais quand il s'agit de problèmes intérieurs, alors là, c'est plus compliqué. Hein. Voici, par exemple, la question de la convoitise. Hein, dans chapitre 5, verset 1 à 10, je ne lis pas le passage, mais en tout cas, la division, le découragement était sur le point de se produire. Mais il a cherché la cause. Il a cherché la cause et il l'a, Dieu lui a montré, et lui, eh bien, ça n'a pas été évident, il l'a dénoncé. Mais il fallait qu'il en soit ainsi pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à se faire. Vous savez, la convoitise, ça peut être un vrai problème. Et c'est un vrai problème. Qu'est-ce que c'est la convoitise ? Une simple envie est à l'origine de toute convoitise. Mais cette envie, elle se transforme souvent en volonté d'obtenir coûte que coûte ce que l'on désire. Et vous voyez ainsi, par exemple, Achan ou Achab, Ananias et Saphira, qui ont été prêts, les uns ou les autres, à voler, à mentir, ou même à tuer, dans le cas d'Achab, afin d'assouvir leur convoitise. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous ne devons pas nous laisser surmonter par l'amour de l'argent, nous contenter de ce que nous avons, car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, la convoitise, ça peut être plusieurs choses. La convoitise, ça peut être de vouloir une place dans la société, par exemple, mais sans vouloir servir les autres. Hein, donc, désirer la richesse pour son seul intérêt, rechercher les louanges des autres pour soi. Ou alors, la convoitise, ça peut aussi être vouloir obtenir de bonnes choses pour de mauvaises raisons. Hein ? Ainsi nous est-il dit que si quelqu'un désire la charge d'évêque, c'est-à-dire du responsable dans l'Église, ben il désire effectivement quelque chose de très bon, hein, dans 1 Timothée 3, verset 1, vouloir que notre vie ait un impact positif sur notre entourage, c'est une très bonne chose, à condition que ce soit pour des raisons valables. Si on cherche seulement l'adulation des hommes, si on cherche la domination sur les autres, alors notre désir n'est que convoitise. Ou encore la convoitise, ça peut être aussi vouloir obtenir de bonnes choses au mauvais moment. Un jeune couple va déclarer, par exemple, nous nous aimons et nous allons nous marier dans 3 mois, mais nous voulons coucher ensemble tout de suite. Alors ce qu'ils veulent, c'est une bonne chose, ils ont de bonnes raisons pour ça, mais ils le veulent au mauvais moment. Ça s'appelle de la convoitise aussi. Et puis encore, la convoitise, c'est vouloir obtenir de bonnes choses, mais au-delà de ce qui est juste pour nous. Hein, nous avons vu, le Seigneur est celui qui veut nous donner ce dont nous avons besoin. Et il pourvoira pour que nous puissions accomplir sa volonté, que nous puissions accomplir ses desseins. Alors, ça devrait nous suffire. Et je crois que si nous confions dans le Seigneur, et à ce moment-là, nous aurons cette pleine satisfaction. Et à ce moment-là, eh bien, on découvrira un vrai bonheur, un bonheur qui est durable, un bonheur qui est profond. Amen. Et c'est ça que Dieu veut aussi pour chacun d'entre nous. Donc si j'avance, que vois-je encore ? J'aperçois que vous avez aussi, il s'est trouvé aussi devant la question des faux frères et la question des faux prophètes. Nous avons lu ce passage tout à l'heure dans le chapitre 6, versets 10 à 14. Et ça, c'était plus délicat parce qu'il y avait parmi ces gens-là certains qui avaient de l'influence et qui utilisaient les choses spirituelles pour parvenir à leur propre fin. Vous voyez la complication de démêler ce genre d'écheveau. Et puis si vous tirez la mauvaise herbe, vous risquez d'en déraciner qui sont de bonnes. Donc voilà, donc il ne pourra pas agir directement lui-même, mais il priera, Dieu agira, lui-même saura le faire dans la suite, après qu'il ait usé de patience et de persévérance. Et là aussi, Dieu, au bout du compte, lui donnera la délivrance et la victoire. C'est ce qu'on voit aussi dans le chapitre 13, donc le dernier chapitre. Après, nous voyons aussi une autre chose, c'est il le reprend ce qui concerne le sabbat. Le sabbat, c'était le jour qui était mis à part pour le service de Dieu, pour l'adoration. Voilà. Donc, et puis, voilà, Néhémie savait qu'une des raisons pour lesquelles Jérusalem avait été finalement détruite et le peuple avait été exilé auparavant, il savait qu'une des raisons, c'était le refus de mettre à part ce jour et de sanctifier dans leur vie, de mettre à part pour Dieu ce qui devait être mis à part pour Dieu. Alors, eh bien, il leur rappelle et il leur montre que la cause du malheur était là aussi. C'était une des raisons. Et donc, il explique, voilà, c'est votre manque de sanctification. C'est votre âpreté au gain. C'est parce que vous n'avez pas assez, vous n'en gagnez pas assez 6 jours, il faut absolument que vous en gagniez jusque le jour suivant. C'est votre désir de jouir en premier les choses de la terre. C'est votre amour, manque d'amour pour Dieu. Voilà, toutes ces choses-là, il les exprime parce que, ben voilà, il faut qu'ils soient remis en question sur ce point-là pour réagir de la bonne façon. Et puis après, il va trouver une autre cause encore, c'est la nécessité et l'importance de soutenir le fonctionnement de la maison de Dieu. Le service de la maison de Dieu, ça aussi c'est exprimé dans le chapitre 13, les versets 10 au verset 14. Alors, donc, pour voir aux besoins de ce fonctionnement, au maintien de ce culte, à l'avancement de ce culte, et il explique clairement que si certains ont des bénédictions particulières, c'est aussi parce qu'ils ont pris ça à cœur. Donc, des actes de piété qui sont faits pour la maison de Dieu, qui sont faits par les uns, qui sont négligés par d'autres, chapitre 13, verset 14, voilà, il explique que là encore, évidemment, chacun est libre, mais il y a aussi des causes à ce qui arrive aux uns et aux autres, et on récoltera suivant ce qu'on sème. Et puis, il le reprend aussi en ce qui concerne les mauvaises unions. Chapitre 13, versets 23-28. Et là encore, eh bien, que de difficultés, que de souffrances, que d'extrémités auxquelles il est obligé d'arriver. Pourquoi ? Eh bien, à cause de ces choses et de leurs conséquences. Et ainsi, voyons-nous qu'en cette occasion, Néhémie discerne et indique clairement les causes au peuple de Dieu. Et voici donc un homme de réveil. Alors que Dieu nous soutienne et nous aide à être chacun, avant tout, un véritable homme de réveil, une véritable femme de réveil pour soi-même, pour moi-même en premier. Et puis que je puisse l'être aussi pour les miens, ensuite. Et puis que je puisse l'être plus loin après, suivant la conduite de Dieu. Et que je puisse aussi agir pour remédier, bien sûr, à ces causes. Parce que le but n'est pas seulement de les discerner, mais avec la force et la grâce du Seigneur, eh bien, que puissent être prises les claires et justes mesures, comme il l'a fait lui-même, pour le plus grand besoin de tous. Amen. Voilà. Alors nous allons arrêter là, parce que sinon ça va nous emmener trop loin, à moins que vous soyez prêts à faire assurer le culte jusqu'à 14h, sinon je ne suis pas sûr pour tout le monde. Voilà. Donc nous allons arrêter là pour l'instant. Mais que Dieu bénisse sa parole pour chacune et chacun d'entre nous. Nous te remercions, Seigneur, te bénissons parce que tu as placé devant nous des modèles. Tu as placé devant nous des hommes qui sont des exemples, qui sont des panneaux indicateurs, qui sont vraiment ceux qui nous disent « Voici le chemin, marche-y ». Et merci parce qu'avec le secours de ton esprit, bien nous pouvons effectivement marcher et avancer dans le bon chemin et de la bonne manière. Merci parce que tu veux encore poursuivre ton œuvre dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies à chacun, pour qu'il puisse en être ainsi en réalité et de tout notre cœur. Merci notre Dieu, sois glorifié pour tout ce que tu accomplis encore en faveur de tes enfants, en faveur de ton peuple. Béni sois-tu notre Dieu pour la grandeur de ta grâce et pour l'excellence de tes conduites. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.